carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'œuvre du photographe Lucien Clergue est suffisamment dense pour être présentée sous plusieurs angles. Citons les nus féminins, la Camargue, les gitans, la tauromachie, les surimpressions, les acrobates, les portraits de Picasso et de bien d'autres. Cet Arlésien de naissance, fidèle à Arles pour y vivre et y avoir fondé les rencontres de la photographie d'Arles, s'est aussi rendu en Amérique. Plusieurs fois, au cours de sa vie, Lucien Clergue a séjourné aux États-Unis entre 1961 et 2010. De ses voyages, il a réalisé des milliers de clichés, façonné son destin d'artiste. Si Arles, c'est Clergue et Clergue, c'est Arles, quelle est l'Amérique de Clergue et qui a été et est Monsieur Clergue in America? Clergue in America, c'est le titre d'une exposition présentée au Palais de l'Évêché d'Arles du 31 mars au 1er mai 2011 et le titre également d'un catalogue sorti en mars 2011. Lucien Clergue est membre de l'Institut. Il est le premier photographe à être entré à l'Académie des Beaux-Arts et il est au téléphone avec nous aujourd'hui, 29 mars, de son pays d'Arles pour nous parler d'Amérique et de la présentation de ces 150 photographies inédites pour la plupart, présentées pour un mois à Arles. Bonjour et merci Lucien Clergue d'être avec nous, à quelques heures je crois du vernissage de l'exposition.
Bonjour.
Que représente pour vous l'Amérique, Lucien Clergue?
L'Amérique, c'est le nouveau monde. C'est tout simplement un homme comme moi qui suis né dans une ville très vieille puisqu'elle a 4600 ans d'histoire, et qui est surtout dominé par l'art romain et roman, c'est-à-dire tout en arrondi. Je suis arrivé à New York où j'ai découvert l'architecture de notre temps.
Quel souvenir avez-vous gardé de votre première arrivée aux États-Unis?
Eh bien, la première fois que je suis allé à New York, c'était en 1961, à l'occasion de mon exposition au Museum of Modern Art de New York, où Edward Steichen, le grand photographe, m'avait invité. Et j'y allais avec une double intention, celle d'exposer bien sûr dans ce prestigieux musée, mais surtout de voir Guernica, qui pour moi est un des plus grands tableaux de l'histoire de la peinture. Et je me suis aperçu que pour aller voir Guernica, il fallait traverser toutes les salles de photographie du musée. Et ça fait tilt, ça m'a fait comprendre que la photographie, c'était très important. Et dès que je suis rentré en Arles, j'ai séduit mon ami Houquette, conservateur du musée, pour ouvrir un département photographie.
Vous avez trouvé que la photographie et la peinture se correspondaient à l'intérieur d'un musée?
Absolument, d'autant plus que vous savez que Guernica est fait comme une photo, puisque c'est un camaïeu de gris et de noir, comme on voyait les reproductions à l'époque dans les journaux. Donc ça allait de soi.
Vous avez eu une émotion particulière, j'imagine, à découvrir Guernica, qui à l'époque, je le rappelle, était exposée à New York, puisque oui. Picasso refusait qu'elle soit présente en Espagne à cause du franquisme.
Exactement.
Qu'est-ce que ça vous a fait, vu les liens que vous aviez avec justement Picasso, qui était très proche de vous?
Quand je suis parti, je me souviens très bien que quand je suis parti pour mon exposition à New York, je lui ai dit, alors il m'a dit, tu feras bien mes amitiés à Edward Steichen, parce qu'ils se connaissaient, car en effet, Steichen avait été le premier à l'exposer à New York dans les années 10, dans sa fameuse galerie de 191, avec son ami Stieglitz. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à New York, j'ai fait des amitiés de Picasso à Steichen, qui m'a demandé son âge. Ils avaient en fait un an de différence, et c'était Steichen le plus âgé. Il m'a dit « Ah, mais c'est un jeune homme !» Alors, ça m'a bien fait rigoler. En tout cas, ils se connaissaient bien, parce qu'on a vu par la suite des photos où ils se sont retrouvés à Cannes.
Quand on vous propose de faire cette première rétrospective, c'est ça, à New York, là, vous avez 27 ans. Qu'est-ce que vous avez choisi comme sélection, disons, de vos photos, de votre travail?
Eh bien, Edward Steichen m'a demandé d'envoyer 200 photos pour qu'ils en choisissent, je ne sais plus, une soixantaine, je crois, 70, pour être montrées à l'époque dans les sous-sols du musée. La photographie n'était pas très valorisée encore, mais c'était prestigieux, évidemment, parce que c'était en fait un triptyque avec l'anglais Bill Brandt et le japonais Ishimoto.
Ah, c'était voilà, une rencontre internationale.
Oui, exactement. C'était vraiment une préfiguration de ce que j'allais faire en Arles.
Oui, avec entre l'Asie et l'Europe, c'était passionnant pour vous de découvrir ça
absolument,
si jeune.
Absolument.
Vous avez gardé des liens, j'imagine, avec ces artistes que vous avez rencontré pour cette occasion. Vous avez aussi rencontré d'autres personnalités du monde photographique à ce moment-là, dans les années 60, aux États-Unis.
Oui, j'ai connu en particulier, il y avait deux jeunes photographes américains qui avaient organisé une partie, une soirée en mon honneur. Et ils m'avaient fait demander qui je voulais voir au cours de cette soirée. Et j'ai donné deux noms, c'était Robert Frank et William Jane Smith. Et curieusement, ils sont venus tous les deux. Alors ça, c'est extraordinaire parce que j'étais pratiquement inconnu. Mais Robert Frank, je l'avais découvert dans le fameux livre des Américains et puis dans la revue Doux en Suisse. Et puis Jane Smith, c'était déjà un mythe. Alors j'étais vraiment heureux qu'ils soient là tous les deux.
Et quand ils pensaient de ces photographies, vous nous avez dit qu'il y en avait une soixantaine. C'était des photographies de quel univers, j'allais dire, de la Camargue, de vos premières photographies?
Oui, l'exposition comprenait essentiellement des photographies de Camargue, des photographies de gitans, quelques photos de nus et quelques animaux morts. C'était donc ces quatre thèmes que Station avait choisi particulièrement. Il avait d'ailleurs déjà acheté 9 photos de moi 2 ans auparavant pour les collections du musée et il avait acheté 8 nus et un oiseau mort.
Qu'avez-vous découvert là-bas pour votre métier de photographe à l'occasion de ces premières rencontres, on va dire, très fortes avec le milieu de la photographie américain?
Comment dire? Vous savez, il m'est arrivé une histoire assez curieuse à New York parce que j'avais des recommandations pour aller voir des gens, donc je suis allé voir les patrons des grands magazines, dont le fameux magazine Vogue. Et là, le directeur du magazine Vogue, après avoir vu mes photos, m'a proposé de travailler pour lui. Et j'ai refusé. Et ça l'a absolument stupéfait, quoi, parce que il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte que tous les photographes rêvent de travailler pour notre revue et vous êtes le seul à refuser. Je dis, oui, mais je protège ma liberté et j'y tiens beaucoup. Et finalement, on s'est quitté quand même bons amis. Il a acheté 4 photos qu'il n'a jamais publiées d'ailleurs, mais il me les a payées. Et il m'a dit, je veux que vous sachiez que le patron de Condé Nast admire votre travail.
Vous avez travaillé pour d'autres revues, je crois, là-bas,
qui vont permettre. J'ai très peu travaillé pour... Oui. J'ai très peu accepté de commandes dans ma vie.
Oui.
Et les deux seules grosses commandes que j'ai eues dans ma vie, c'était de photographier Brasilia et Chandigarh, après la visite à New York. 61, c'est New York, 62, c'est Brasilia, 63, c'est Chandigarh.
Ces séjours américains, parce qu'il y en a eu plusieurs qui se sont succédés, ont-ils et sont-ils encore source d'inspiration nouvelle pour votre travail?
Ah ben constamment. Je peux vous dire que parce que je vais toutes les années à New York, une fois, deux fois, trois fois, parfois quatre fois l'année, et dès que j'arrive à New York, l'inspiration, il faut que je travaille. La lumière de l'appartement dans lequel j'ai la chance de vivre, que me prête un ami, est très bien exposée, et cette lumière me rappelle un peu la lumière d'ici, de la Provence, une lumière très forte, très vive. Et j'ai tout de suite envie de faire des photos, donc j'appelle un de mes modèles favoris, Margot ou Cassandre, et le lendemain matin, elles sont là, leur dites, posez pour moi.
Cette liaison amoureuse, si je peux me permettre, entre vous et les États-Unis à 50 ans cette année, qu'est-ce que vous poursuivez dans ces espaces si variés de l'Amérique, que ce soit les paysages urbains, New York dont vous venez de nous parler, ou bien les déserts?
Eh bien, c'est vrai que les déserts en particulier m'ont beaucoup frappé, notamment celui de White Sands, où on a expérimenté la bombe atomique. Et donc, j'ai amené là un modèle de nu pour amener la vie contre la mort. Ça, c'était obsessionnel chez moi et je voulais absolument le faire. C'était pas très autorisé, mais on m'a pas dérangé, les rangers ne m'ont pas embêté. Et on a pu faire de très belles photographies qui sont exposées dans cette présentation à Arles ce mois-ci.
C'est la première fois qu'on les voit?
C'est peut-être la première fois pour certaines, oui. Il y en a peut-être qui ont été un peu exposées, mais regroupées comme ça, je ne l'ai jamais fait. Le désert de White Sands et le désert de la Vallée de la Mort, qui est aussi, ne serait-ce que par son nom, un symbole assez dur, quoi.
Je reviens juste au désert de White Sands. Est-ce que cette série de photos témoignait aussi d'un engagement de votre part contre l'arme nucléaire ou c'est la beauté du paysage qui vous a fait y aller?
C'est d'abord la beauté du... Enfin, c'est effectivement la beauté du lieu qui est un lieu à couper le souffle et qui est le silence absolu, sauf quand il passe des avions au-dessus, mais autrement c'est un silence qui n'existe nulle part ailleurs. Et c'est vrai que tout de même, on ne peut pas ne pas y penser. Quand on y est, on se dit, c'est là qu'a été expérimenté cette machine de mort. Et alors particulièrement cette année avec ce qui se passe au Japon, ça frappe les esprits. Mais je n'ai pas fait d'engagement, si vous voulez, politique ou engagé. Je ne me suis pas engagé d'une manière trop spectaculaire. Voilà. Je donne à voir et on peut réfléchir. Mais il est vrai qu'un des nus que j'ai fait, j'ai demandé au modèle de mettre ses bras de telle manière qu'on ne voit pas ses bras, mais on voit leur ombre sur le sable. Et c'est exactement le souvenir de cette fameuse échelle d'Hiroshima qui avait été complètement brûlée par le souffle de la bombe atomique, mais dont l'ombre était restée marquée, imprégnée dans le mur en face. J'ai fait quelque chose dans le même esprit. Mais il y a un autre lieu qui est aussi important pour moi, alors qui est l'inverse, qui n'est pas le désert, mais les rochers au bord du Pacifique.
Oui.
C'est le lieu dit Point Lobos, oui, près de la petite ville de Carmel. Et c'est
en
là
Californie.
Que Stevenson a situé l'île au trésor.
Et vous vous y êtes rendu dès lors de votre premier séjour, je crois, non ?
La première fois que je suis allé à l'Ouest, en 72, je suis allé parce qu'au début, j'étais surtout à New York et sur la côte Est. Mais là, j'ai fait un tour du monde et je me suis trouvé à San Francisco, Carmel et Los Angeles. Et j'ai commencé à explorer Point Lobos, qui est un lieu fascinant parce que pour le Méditerranéen que je suis, je retrouve tout un aspect anthropomorphique, c'est-à-dire que j'y ai vu l'homme, la femme, la mort, les chimères, alors que les Américains n'ont pas été capables de le voir, parce que c'est un état d'esprit. Moi, je suis méditerranéen, je porte en moi cette notion de relation à l'homme, alors que pour eux, c'est le rocher, c'est un rocher. Voilà.
Dans les sables du Rhône, comme dans les sables de ces déserts lointains, ou sur ces rochers, vous y avez vu effectivement des bouches, des corps, des photos absolument à couper le souffle, et qui ont donné aussi lieu à votre série Ève et Noir, dans ces années-là, qui sont des magnifiques photos où vous mettez en scène une femme nue, noire ou blanche, dans les immensités du désert.
Oui, mais vous savez, ces photos de cette jeune femme noire m'ont valu des compliments de toute une communauté d'étudiants noirs à Baltimore lorsque j'y avais exposé, alors que j'avais été attaqué par des étudiants blancs en traitant mes photographies de pornographie. Le lendemain, un groupe d'étudiants noirs est venu me remercier avec beaucoup d'émotion d'avoir photographié cette jeune femme de cette façon et d'avoir célébré leur race de belle manière. Alors ça, c'était pour moi un compliment qui m'avait beaucoup touché. Il y a eu aussi un événement, enfin un passage qui compte pour moi, c'est que j'avais découvert un gitan, Manitas de Plata, et son cousin germain José Reyes, le chanteur, le papa des Gypsy Kings, et nous avons fait une première tournée de concert en 65, et là, on a sollicité Manitas pour représenter l'Europe aux Nations Unies lors du gala de célébration des droits universels de l'homme, qui est élu par le grand acteur américain Sidney Poitier. Et donc, les gitans représentaient l'Europe. C'était la première fois que l'ethnie gitane entrait aux Nations Unies. Et depuis, ils ont 3 représentants permanents. Et ça, c'est un de mes titres de gloire.
Il y a aussi une photo où on voit justement Manitas de Plata. C'est vous qui le prenez en photo auprès de Liz Taylor, qui vient de disparaître. Vous avez rencontré aussi des personnalités du moment, des vedettes. Vous avez fait beaucoup de portraits à cette époque ?
Oh, ce n'est pas vraiment des portraits, mais il se trouvait que j'étais dans cette situation. C'était un gala au Palais de Chaillot à Paris pour l'UNICEF. Et il y avait Richard Burton, il y avait Marlon Brando, Liz Taylor et Manitas de Plata est venu lui faire la sérénade. Et d'ailleurs, Marlon Brando était venu 2 ans auparavant, en 65, au Carnegie Hall pour l'écouter. Et donc on s'était connus déjà là, enfin on se connaissait déjà, quoi. Mais comme je suis au départ violoniste,
oui,
je me suis beaucoup intéressé et j'ai été très lié avec Alexandre Schneider, avec Isaac Stern, avec Yehudi Menuhin, que j'ai pu photographier assez intimement.
Bon, j'imagine que vous ne comptez plus les fois où vous avez traversé l'Atlantique pour aller aux États-Unis, mais vous avez dit que vous y alliez tous les ans. Comment germent, disons, vos idées de carnet de voyage ou de campagne photographique ou ces séries ? Vous dites que vous êtes pris, saisi dès que vous mettez le pied sur le sol américain d'une envie de travailler. Comment ça se passe un peu dans la tête du créateur, on va dire ?
Vous savez, c'est le sujet qui s'impose souvent à moi. Bon, parfois, ce sont des collègues, des confrères qui me disent « Est-ce que tu es allé là ? Tu connais cet endroit ? Tu devrais y aller ?» Donc, je les écoute et j'y vais. Mais c'est vrai que Point Lobos, ça a été obsessionnel. Pendant 12 ans, je suis allé 2-3 fois par an à Carmel pour photographier ce lieu. Et d'ailleurs, la série s'est terminée avec la mort d'Ansel Adams, car c'est l'année avant qu'il ne meure, j'ai découvert la mort dans les signes de Point Lobos, et j'ai compris que ma saga était terminée. Et d'ailleurs, depuis, je ne suis pratiquement pas retourné à Point Lobos. C'était bouclé, si vous voulez. Alors de même, les déserts, c'est un peu dangereux pour mes yeux, parce que, notamment le désert de White Sands, j'ai eu une cataracte précoce à 50 ans, parce que j'ai pas fait assez attention, et c'est une lumière vraiment aveuglante. Mais c'est un tel souvenir merveilleux que je ne le regrette pas.
Lucien Clergue, il y a une raison précise aussi pour laquelle vous vous êtes rendu à Point Lobos en Californie. C'était aussi pour fouler le sol qu'avait foulé un grand photographe américain, Edward Weston, auquel vous portez une grande admiration.
Et oui, à Point Lobos, qui est donc près de Carmel, et à Carmel habitaient Ansel Adams et le fameux Edward Weston. Donc, si vous voulez, ces gens-là ont beaucoup photographié à Point Lobos. Et moi, j'étais fasciné surtout par les photos de Weston. Et je suis allé la première fois sur ce lieu. Et je dois dire que les premières photos que j'ai faites ont été complètement ratées, tellement j'étais ému de mettre mes pas dans ceux de Weston.
Est-ce que ce travail de surimpression, vous l'avez aussi pratiqué, si je puis dire, aux États-Unis dans votre travail photographique ? Pourtant, ce n'est pas du tout la même inspiration par rapport à tout l'univers méditerranéen, antique, que vous portez, justement. Il y a un mélange, là, entre ces cultures.
C'est vrai qu'il y a un mélange, mais c'est ça qui était intéressant. D'abord, il faut dire que les musées de la côte Est, New York, Philadelphie, Washington, Boston, le Fogg, sont des musées très accessibles, où on peut travailler aisément, sans flash, sans trépied, mais comme un visiteur, ben, on peut avoir l'appareil photo. Et donc très vite est venue pour moi l'idée de faire ces surimpressions avec des photos déjà faites, soit à New York, soit dans le désert ou ailleurs, pas trop dans le désert, non, mais surtout à New York, et là, de faire des surimpressions, surtout au Metropolitan Museum, qui est un musée exceptionnel, d'une richesse formidable.
Vous avez été aussi un passeur en matière de photos d'art entre l'Amérique et la France, et la France et la Camargue, avec les rencontres photographiques d'Arles que vous avez créées. C'est devenu un grand rendez-vous incontournable. Mais quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces échanges là, au fil de ces 50 années ?
Vous savez, les rencontres de la photo vont fêter cette année leur 42e année. Donc, vous voyez, c'est assez proche. Bien, moi, pendant les 10 premières années où je m'en suis occupé, j'ai fait venir les plus grands photographes vivants de cette époque-là. Maintenant, c'est un peu, il y a moins de leaders, si vous voulez, comme il y avait à cette époque-là. Mais mon successeur, notamment M. François Hébel, fait un travail absolument magnifique. Et il fait venir de très grands artistes et nous avons les artistes actuels, enfin de l'époque, qui sont très souvent représentés à Arles.
Je voudrais revenir un petit peu encore sur l'exposition. Vous présentez des Polaroids grand format. Moi, j'en avais jamais vu. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ou raconter un petit peu ce temps du Polaroid qui revient beaucoup à la mode?
À la fin des années 70, on m'a offert, la maison Polaroid m'a offert un petit appareil, l'appareil que tout le monde a utilisé, qui a l'air de tirer la langue. Et j'ai commencé à faire des photos avec ça, mais ça ne me donnait pas suffisamment de satisfaction. J'ai vite compris qu'il fallait faire des compositions, c'est-à-dire des formes, des losanges, des panoramiques, etc., avec plusieurs photos ensemble. Et ça donnait des choses très passionnantes. Et puis un beau jour, ils m'ont proposé d'utiliser l'un des quatre grands appareils de format 50-60, qui eux, évidemment, ne sortaient pas d'un studio, avaient un assistant qui était vraiment c'était comme un homme et une femme, quoi, cet appareil et cet assistant. Et il fallait des projecteurs, enfin c'était toute une autre technique. Et ça m'a passionné, et j'en ai fait beaucoup. J'ai commencé à Boston, là où était le siège de Polaroid, et puis ils ont ouvert un studio à New York, et j'ai continué à en faire pas mal.
Oui, alors là, on a, ça s'appelle...
Essentiellement des nus.
Oui, des nus, femmes en jaune à New York,
oui.
Nus au papier japonais. Là, il y a des mises en scène et en même temps beaucoup de jeux, évidemment, sur la lumière. Ce sont des présentations, celles sur du nu au papier japonais. Il y a un jeu entre, je suppose, un papier japonais sur lequel joue la main du modèle, les mains du modèle peut-être, vous allez nous en parler, je ne sais pas.
C'était une jeune femme d'ailleurs française qui était de passage à New York et elle a été vraiment très très gentille et très patiente parce que ce n'était pas commun étant donné qu'on faisait On faisait la photo, on la mettait au point, l'assistant devait prendre des mesures exactes pour faire la mise au point exacte, et ensuite on avait un seul tirage. On n'avait pas de négatif, on ne pouvait que recommencer à en faire un autre. Et c'était impressionnant d'avoir cette longueur de papier qui sortait de cet appareil.
On parle moins de vos films que de votre œuvre photographique. Est-ce que vous en avez réalisé aux États-Unis ?
Aux États-Unis, j'ai fait qu'un petit morceau d'un film sur l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Et nous avons tourné notamment dans cette partie de New York qui est Wall Street, et très proche donc de, à l'époque, les Twin Towers étaient encore debout. C'était en 1999. Et donc là, j'ai découvert une architecture qui était pour moi assez inattendue parce que, en fait, c'était retrouver le passé de l'architecture des cathédrales. Les cathédrales étaient faites en général sans recul et on était obligé d'y avoir le nez collé dessus. Et dans Wall Street, c'est un peu ça, parce que Wall Street, c'est une rue très étroite où il y a des bâtiments impressionnants de plusieurs dizaines d'étages avec une vision architectonique qui est très différente du reste de Manhattan.
Il y a une photographie qui m'intrigue dans l'exposition, dans le catalogue, là, qui s'appelle Lucien Clergue, autoportrait, qui a été prise à New York en 88.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette photographie ?
Eh bien, en effet, sur cette photographie, on voit un centaure ailé. Et c'est moi. Alors, bravo, c'est une photographie que j'ai faite de moi-même reflétant dans la vitrine du célèbre magasin Bloomingdale, la boulangerie. Et je ne sais pas, ils avaient un rideau derrière la vitre qui reflétait la rue d'une manière assez diffuse, comme ça. Et je faisais une composition un peu comme un peintre, c'est-à-dire que j'attendais que passe derrière moi un taxi jaune ou une voiture rouge.
D'accord.
Et à ce moment-là, je déclenchais. Mais celle-là, où j'ai l'air d'un centaure, oui. Là, je n'arrive pas à expliquer ce qui a pu se passer. Ça, c'est les petits cadeaux que vous font les petits anges qui vous tournent autour quand ils voient que vous travaillez avec beaucoup d'obstination. Alors, ils vous font un petit cadeau comme ça.
Voilà. Alors, effectivement, le spectateur verra vos sabots de centaure et puis, étrangement, deux yeux jaunes qui regardent aussi le spectateur et à travers lesquels on peut voir le monde qui est derrière. Je ne savais pas que c'était le jaune d'un taxi, mais en tout cas, il est plein de lumière. Et je vous remercie, Monsieur Clergue, de cet entretien par téléphone aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.
Merci.
Les auditeurs peuvent découvrir donc votre œuvre à travers cette exposition Clergue in America au Palais de l'Évêché à Arles du 31 mars au 1er mai 2011, l'après-midi. Ceux qui l'auront manqué pourront se rattraper avec le catalogue de l'exposition. Retrouvez Lucien Clergue aussi dans d'autres émissions sur Canal Académie à propos de Picasso, de ses livres d'artistes ou encore de Jean Cocteau.